Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vais vous parler aujourd'hui du mariage chrétien. J'ai déjà fait 3 sermons en janvier 2018 sur le mariage, mais sur le mariage en général. Il faut maintenant que je vous expose le caractère sacramentel du mariage. Peut-être me direz-vous, mais comment ai-je pu parler du sacrement de mariage sans parler du sacrement? Parce que le mariage a quelque chose de particulier. Tous les sacrements ont des choses communes, et chaque sacrement a quelque chose de particulier. Et ce que le mariage a de particulier, c'est qu'il n'est pas un sacrement extérieur comme le baptême qui se rajoute à la vie pour la sanctifier. Le sacrement de mariage, c'est le mariage lui-même que le Christ a élevé à la dignité de sacrement. D'où l'importance de ce que nous avons déjà dit du mariage en général, et qui prend dans la vie chrétienne, du fait du sacrement, une dimension sacrée. Et nous allons voir laquelle. Je vous ai dit que, par le mariage, les époux assument une mission. Avant le Christ, celle-ci ne concernait que de loin la croix de Jésus-Christ, parce que, bien sûr, les hommes étaient déjà orientés vers Jésus-Christ depuis le début, depuis le paradis terrestre, mais de façon un peu voilée, assez implicite. Depuis la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le lien entre le mariage et Jésus-Christ, le lien entre le mariage et la croix de Jésus, est beaucoup plus fort et beaucoup plus direct. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi de me parler du mariage juste après vous avoir entretenu du sacerdoce, alors que d'habitude on met le mariage en dernier, le dernier des sacrements. Mais je veux vous montrer justement l'importance de ce sacrement par rapport à Jésus, à la croix de Jésus, à la mission rédemptrice de Jésus-Christ, à la mission sanctificatrice de Jésus-Christ. Pour bien poser les choses, nous allons commencer par exposer les 3 éléments du sacrement de mariage. Vous vous rappelez, le signe seul, sacramentum tantum, le signe qui est en même temps réalité, et puis la réalité. Alors le signe, tout seul, c'est l'échange des consentements par les paroles des époux. C'est un signe de quoi? De ce qu'ils s'engagent dans une mission. Ils se lient, ils se donnent l'un à l'autre, plus exactement, ils s'engagent à travailler l'un et l'autre au service de Dieu. Ça, c'est un signe. Tout le monde comprend, en les entendant, tiens, ces gens-là, maintenant, sont mariés. Il y a une réalité qui est encore signe, qui est encore sacrement signe, c'est le lien conjugal. C'est-à-dire que les paroles créent un lien, qui est un lien sacré, qui n'est pas encore la réalité ultime, puisque vous vous rappelez que la réalité ultime, c'est la grâce. Mais le lien qui est entre le signe et la grâce va être la source de la grâce. Et cela a une conséquence pratique, mes bien chers frères. C'est que les grâces du mariage vous sont données, comme pour les sacrements qui ont un caractère. Attention, le lien n'est pas un caractère. Il est une res et sacramentum, il est un signe qui est déjà un peu réalité, mais il n'est pas un caractère. Cependant, comme il est permanent, il est une source permanente de grâce, et par conséquent, les grâces du mariage ne vous sont pas données d'un seul coup, comme à la pénitence, comme dans l'Eucharistie, ou à l'extrême onction. Elles sont données tout au long de la vie matrimoniale des époux. C'est une source constante de grâce. Et cela, il faut y penser de manière à chercher à obtenir ces grâces que Dieu veut vous donner. Saint Paul nous dit, dans l'Épître aux Galates, que la grandeur de ce sacrement vient de ce qu'il reproduit ou de ce qu'il a pour modèle, une réalité très élevée, à savoir le mystère du Christ et de l'Église. Saint Thomas d'Aquin en parle, bien entendu. C'est une des particularités du mariage, justement, du fait que le mariage a été élevé à la dignité de sacrement, il a été élevé à la dignité de reproduire un modèle très élevé. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il est sur le modèle de l'union du Christ et de l'Église. N'allez pas chercher des choses compliquées. N'allez pas chercher des grandes phrases et des grandes théories. Cela veut dire que le but du mariage, désormais, comme ce fut le but de Jésus-Christ dans son incarnation, c'est d'amener les enfants au pied de la croix, ou plus exactement, de les amener à l'union à Dieu. Vous vous rappelez ce que disait saint Augustin, la sainte société, vivre dans la sainte société du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par le sacrifice, ce qui est un sacrifice, et donc par le sacrifice de la croix. Le Christ a confié d'abord aux prêtres, mais aussi aux parents chrétiens, de mettre au pied de la croix. Pas de la même manière, pas avec la même dignité, mais malgré tout, c'est le même but. Les époux forment les adorateurs du vrai Dieu, c'est-à-dire les amoureux de la croix. Ils forment les futurs prêtres, qui sont liés à la croix, puisqu'ils sont liés au sacrifice eucharistique, les futures vocations religieuses, qui se consacrent à Jésus-Christ. Et même ceux qui n'auront pas la vocation parmi leurs enfants, ils les forment à être des bâtisseurs de chrétienté. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas parmi les enfants ceux qui sont dédiés à Jésus-Christ au pied de la croix et ceux qui ne le sont pas. Non, ils sont tous dédiés à Jésus-Christ au pied de la croix, en se mettant au pied de la croix, les uns d'une manière, les autres d'une autre. Former les futurs prêtres, je vous donnerai un exemple. Lorsque Saint Pie X fut consacré évêque, il rendit visite à sa mère pour lui donner la joie, évidemment, et pour l'honorer. Et donc, il arriva avec les habits épiscopaux, les habits de cérémonie, vous voyez, pour honorer sa mère. Et tout naturellement, il lui donne son anneau épiscopal à baiser. Mais avant de baiser l'anneau épiscopal de son fils, sa mère, Madame Sarto, montre sa propre alliance et elle lui dit « Tu n'aurais pas celui-là, en montrant l'anneau épiscopal, si je n'avais pas celui-ci, en montrant son alliance. » Ça va plus loin que le fait d'avoir donné la vie. C'est évidemment une formation profonde, qu'on retrouve même chez ceux qui n'ont pas la vocation, par exemple Saint Louis. J'espère que vous savez, que vous connaissez la vie de Saint Louis, qui a été formé par Blanche de Castille à une vie très profondément chrétienne, et c'est grâce à Blanche de Castille que Saint Louis a été non seulement le roi de la croisade, mais également le roi qui a sanctifié le royaume, qui a vraiment développé dans une grande mesure, la vie chrétienne et le caractère sacré de la France. On pourrait prendre également l'exemple des Catelineaux, qui n'avaient pas la vocation, qui fut un défenseur de la chrétienté, les Cadoudal, etc. Je passe à la troisième partie de ce sermon. Comment ce modèle, le Christ donc, qui aime son Église, marque le mariage. Comment il lui donne son esprit, comment il lui donne sa forme. Tout d'abord, il lui communique au mariage, il lui communique l'indissolubilité. C'est d'ailleurs par le même mot que saint Augustin désigne le sacrement et l'indissolubilité, sacrement. Vous voyez, le mariage des païens est un vrai mariage, mais il n'est pas un sacrement. Et par conséquent, l'indissolubilité du mariage des païens est quelque chose de naturel par rapport à l'amour d'amitié que les époux se portent et qu'il serait choquant de rompre, par rapport au lien avec leurs enfants, qu'il serait choquant de rompre. Mais il peut y avoir des exceptions. Par exemple, Moïse, pour éviter le conjugicide, a reçu de Dieu la permission d'autoriser les Hébreux à répudier leur épouse. Bien, voilà. L'amour est cassé, il y a quelque chose de cassé, on essaye de limiter les dégâts, les conséquences néfastes. Il y a encore des exceptions aujourd'hui, pour les mariages de païens toujours. Ça ne se produit plus très souvent, mais par exemple, les polygames qui ne se souviennent plus quelle est leur première épouse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il est permis de leur dire « tu choisis celle que tu veux ». Toujours pour une raison de foi. C'est des exceptions exceptionnelles, mais toujours pour une raison de foi. Eh bien, ceci n'est plus possible avec le mariage sacramentel. Pourquoi ça n'est plus possible? Parce que admettre le divorce, ça serait soit admettre que Jésus-Christ peut cesser de nous aimer, soit admettre que le mariage n'est pas sur le modèle de l'union du Christ et de l'Église. Et dans les deux cas, ça serait très grave. Et il peut y avoir des mariages sans fidélité, hélas, ça reste un mariage. Il peut y avoir des mariages sans enfants, pour des causes légitimes ou illégitimes, hélas, ça reste un mariage. Mais il ne peut pas y avoir de mariage sans indissolubilité. Et par conséquent, le code de 1983, le code de faux droit canonique, parce que ce n'est pas du droit, hein. Ça s'appelle du droit, mais ça n'en est pas, qui est un code moderniste, et qui, pour des motifs de pastoral, a cherché à régulariser en apparence la situation d'époux divorcés en déclarant que leur mariage était nul, alors qu'il n'est pas du tout nul. Le pape n'a pas le pouvoir de déclarer nul des mariages qui ne le sont pas. Parce que justement, il ne peut pas toucher au modèle. Il peut déclarer nul des mariages. On peut constater que des gens ne se sont pas mariés. Mais quand ils sont mariés, ils sont bel et bien mariés. Alors pour des motifs de pastoral, ce faux code a prétendu légitimer, régulariser les situations en accordant la nullité. C'est très grave. Parce que du coup, que se passe-t-il? Eh bien, les époux oublient qu'ils ont pour modèle Jésus-Christ sur la croix, parce que cette union de Jésus-Christ avec l'Église a été consacrée sur la croix, c'est pour ça que le mariage est lié à la croix. Ils oublient qu'ils ont pour modèle la croix de Jésus-Christ, et leur mariage perd tout caractère sacré. Et c'est vrai non seulement pour ceux qui divorcent, mais même pour ceux qui ne divorcent pas et qui suivent les nouvelles règles de ce faux code, dans lequel on leur dit « vous vous mariez pour l'épanouissement l'un de l'autre » au lieu de leur rappeler qu'ils se marient pour faire des Saint-Louis, des Cadoudal ou des Saint-Pidis, consacrés à l'autel, au Saint-Sacrifice, à la croix, à la chrétienté. Et de fait, aujourd'hui, même les catholiques, aujourd'hui, sous l'influence de Vatican II et de ce faux code, ont perdu très souvent le sens du mariage chrétien. Et alors, quand la fraternité Saint-Pie X admet que les mariages soient faits sous l'autorité de l'évêque, elle ne peut pas empêcher que les mariages soient faits sous l'autorité de ce code moderniste, et donc elle ne peut pas empêcher qu'un nouvel état d'esprit, une nouvelle mentalité, finisse par changer le mariage. Ce n'est pas de la théorie, là, que je vous dis. Je ne tire pas des conclusions hâtives. C'est impossible qu'il en soit autrement. Si on casse le modèle, comment voulez-vous qu'on continue à le reproduire? La deuxième influence de ce modèle de la croix de Jésus sur le mariage, c'est la fidélité, elle était déjà naturelle, comme fruit de l'amour des époux. Mais désormais, elle est sacrée. Et la troisième conséquence, je vous l'ai dit, mais je la répète tellement c'est important, le but du mariage désormais, c'est de former les adorateurs du vrai Dieu par la croix. Retenez bien cela, mes bien chers frères. Former les adorateurs du vrai Dieu par la croix. Si on a compris cela, on a tout compris. Si on n'a pas compris, on n'a rien compris. Enfin, je voudrais parler de l'influence sur l'acte conjugal. Et par sa finalité procréatrice, cet acte est par nature à l'opposé de l'égoïsme. Et même bien plus, quand les époux ne trichent pas, s'il reste de l'égoïsme chez eux, ça arrive quand même, cet égoïsme disparaît, est transformé, et les époux sont menés à la générosité et au bien commun, c'est-à-dire au service de ce qui les dépasse. Parce que les enfants quittent la famille, et il est évident que les parents veulent être fiers de leurs enfants, et ils sont bien plus fiers d'un enfant qui sert l'Église, sert sa patrie, que d'un enfant médiocre, bien entendu. Et donc c'est ça, être tourné vers le bien commun. Par nature, le mariage est une œuvre civilisatrice et donc opposée à l'égoïsme. D'où la gravité de toute triche dans l'acte conjugal. Y compris la triche qu'on voudrait propre et qu'on appelle la régulation naturelle, mais qui n'est pas naturelle, des naissances, qui est une manière de composer l'égoïsme avec la mission des époux. Mais comment voulez-vous que l'égoïsme soit compatible avec la générosité? Nécessairement, l'un détruit l'autre. Soit la générosité détruit l'égoïsme, et tant mieux, soit l'égoïsme détruit la générosité, et c'est un drame. Alors, du fait que le mariage est sacramentel, parce que ce que je viens de vous dire, c'était pour tout mariage, mais du fait que le mariage est sacramentel, sur le modèle de l'amour du Christ pour son Église, ce n'est pas seulement la pureté qui élève l'acte conjugal. C'est pas seulement qu'il faut éviter la triche, mais l'acte conjugal est baigné, si l'on peut dire, dans la chasteté. C'est là une source importante, pour ne pas dire principale, des vocations sacerdotales et religieuses, et des grands hommes. Je ne vais pas vous faire un cours sur la chasteté, j'en ai déjà parlé dans le troisième serment sur le mariage. Il faut lire saint Paul, il faut réfléchir sur ces questions, il faut réciter son chapelet, il faut réciter son rosaire, pour comprendre ce mystère de la chasteté féconde. Ce mystère de la chasteté des époux. Conclusion. Conclusion pour notre époque. En période de persécution, le mariage est directement lié au martyr. Il forme ceux qui seront au pied de la croix, c'est-à-dire les martyrs en période de persécution. Vous avez dans l'Ancien Testament l'exemple de la mère des sept frères martyrs, lorsque les Hébreux, les Juifs sont envahis par les Grecs païens et qu'on veut les forcer à abandonner la foi en Dieu. Le premier frère, alors c'est pas compliqué, ils vont tous les sept, on va leur couper la langue pour les empêcher de louer Dieu, On va les frire dans une poêle à frire. On va leur découper les membres. Tout ça sous les yeux de la mère. Alors on espère que la persécution du premier fera peur aux autres et qu'ils vont céder. Mais la mère les encourage. On les torture, on les met à mort l'un après l'autre. La mère les encourage. Continuez à louer Dieu, ne léchez pas. Et enfin, en dernier, on met la mère à mort par les mêmes procédés. Je vous ai raconté, je crois, l'histoire de ce jeune Tonkinois qui n'avait pas eu le courage de confesser sa foi quand le juge lui demande d'apostasier. Il n'a rien fait, ni pour ni contre. Alors il se dit, oh, je m'en tire à bon compte. Sa mère l'apprend. Lorsqu'il arrive chez lui, elle lui interdit le seuil de sa maison. À ce moment-là, les yeux de ce jeune Tonkinois s'ouvrent, il comprend ce qu'il a fait. Il retourne chez le juge, il déclare sa foi. Le juge hésite à le condamner à mort, il déclare trois fois sa foi. La troisième fois, le juge le condamne à mort et il est écrasé sous les pattes des éléphants. En période de persécution, le mariage chrétien forme les martyrs. Vous avez la mère des Christéros. Je crois que je vous l'ai raconté, cela aussi. Elle appelle son fils puiné, le deuxième. Ton frère est mort à la croisade, va le remplacer. À la fin de la croisade, elle dit « Le bon Dieu a été un peu court. Je lui avais offert mes quatre enfants et il n'en a pris que deux. » Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du sermon, mais les persécutions ne seront pas de la même nature que les persécutions sanglantes. Ce sera des persécutions telles qu'on les lit dans Rose U, par exemple, ou bien dans ce livre de Huynh, 23 ans, dans le goulag Viet Minh, dont je vous parlerai une autre fois. C'est une force morale qu'il faut que vous donniez. C'est la pratique du sacrifice, mais dans la force morale. Vous comprenez, mes bien chers frères, pourquoi il était nécessaire que je vous parle du mariage juste après vous avoir parlé du sacrifice eucharistique et du sacrement de l'ordre. Que la mère de Saint Pidis vous bénisse. Que les saintes mères de saints vous bénissent. Que les saints pères, parce qu'on pense toujours aux mères, mais on oublie les pères. Je regrette de ne pas avoir pris des exemples de pères qui ont envoyé leurs fils au combat. La plupart du temps, quand les pères envoient au combat, ils y vont eux-mêmes. C'est le cas de toute la famille Catelineau. Que tous vous bénissent, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.